Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Et je vous dis merci aussi pour avoir supporté mon accent un peu mélange américain, luxembourgeois. Et puis dans notre église au Luxembourg, on avait des Italiens, des Portugais, des gens, des Africains un peu partout dans le monde. Alors j'ai fabriqué mon propre accent, hein, le seul du monde qui est là. Et j'espère que vous l'avez compris. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors, attention un moment, avant d'aller plus loin. Les disciples sont dans le bateau, et il y a des bateaux avec. Et c'est selon la volonté de Dieu, parce que Jésus a dit, « Passons à l'autre côté. » Passons à l'autre bord. Alors, ce qui va arriver par la suite n'est pas quelque chose qui va au-delà de la volonté de Dieu. Il va venir un orage. Mais Jésus leur a dit d'aller dans le bateau. Est-ce que Dieu vous a jamais dit quelque chose et vous l'avez fait et vous avez dit, oh, gloire à Dieu, je suis dans la volonté de Dieu maintenant. Dieu m'a dit de faire ceci. Alléluia! Et puis le ciel tombe sur votre tête. Et vous dites, oh, je crois que j'ai loupé la volonté de Dieu. Non, 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 non. Mais il y a des orages qui viennent même quand vous êtes dans le bateau où le Seigneur vous a mis. Voilà. Il se leva en grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait de l'eau déjà. Et lui, il dormait sous la poupe, sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaçait le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Alors, ils avaient peur de l'orage. Et maintenant, ils ont peur de Jésus. Et c'est bien. Mais il y a des gens qui devraient avoir peur du Seigneur. Ils n'ont pas peur, ils devraient avoir. Et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» J'aimerais bien vous poser une question que le Seigneur m'a posée une fois. Et c'est celle-ci. David, allez-vous me croire ou non? Alors, je vous pose la même question. Allez-vous croire le Seigneur ou non? Parce que j'ai bien l'idée qu'il y a des gens qui m'écoutent ce matin qui sont dans un orage. Ça souffle, ça bouge un peu partout. Et il y a des questions qui jaillissent de votre cœur. Alors, moi, des questions peut-être un peu bizarres, mais il y a trois questions ici. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Alors, est-ce que ça vous est jamais arrivé d'être dans une épreuve et vous dites, mais Seigneur, t'es là-haut, tu m'écoutes, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'entends rien, est-ce que tu dors? Est-ce que moi, je suis en train de mourir et tu fais rien? J'avais un ami, on travaillait, un jeune comme un stagiaire, on travaillait au Luxembourg ensemble, on commençait une église et nous devions repartir pour faire une petite tournée missionnaire aux États-Unis. Et là, il était plein d'enthousiasme, on avait commencé une église ensemble, plein d'enthousiasme et de tout ce que ça allait venir. Et oh là là, c'était une année difficile pour lui et son épouse. Et c'était des gens super formidables, mais c'était dur comme tout. Alors, quand j'étais de retour, il était découragé. Il dit, David, je ne prie plus au Luxembourg. Parce que quand tu pries au Luxembourg, c'est le contraire qui arrive. Alors pour dire qu'après, il y avait une bonne église qui a été établie là, et le frère, il est revenu, il est devenu pasteur de cette église, il a fait un travail formidable pendant des années là. Mais sur le coup là, sur ce moment-là, il dit, quand je prie, ce n'est pas la chose pour laquelle je prie qui arrive, mais c'est le contraire. Je n'ose pas vous demander de lever la main, mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'ici, même cette semaine, vous avez prié et la contraire, le contraire vous est arrivé? Ça m'est arrivé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là-haut? Je me souviens de la toute première fois qu'on a quitté les États-Unis pour aller en missionnaire en Europe là. Et j'avais mes enfants, 9 ans, 7 ans et 6 ans. Alors, le garçon de 6 ans, Charles, lui-même, il est missionnaire maintenant. Il vient souvent au Canada. Mais il était tout petit et il n'était jamais allé en avion. Alors, nous avons décollé et là, ça commençait de monter. Et vous savez comment c'est dans un avion, quand vous passez par les nuages là tout bas, ça commence de trembler un peu. Et quand ça commençait de trembler, je regardais mon fils Charles, il avait les grands yeux. Il dit, ce pilote là, qu'est-ce qu'il fiche là-haut? Parce qu'il croyait qu'avec le tremblement de l'avion, que c'était quelque chose qui n'allait pas. Et j'avoue mes amis, il m'est arrivé de dire au Seigneur, Seigneur, non, je n'ai pas dit, mais je voulais dire, parce que j'ai quand même un peu de peur. Mais je voulais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là-haut? Tu ne vois pas? Ça ne te fait rien que je souffre? Ça ne te fait rien que j'ai mal, je suis malade? Ça ne te fait rien que tu ne peux pas payer cette facture-là? Ça ne te fait rien que tout va mal dans ma famille? Ça ne te fait rien qu'au travail, le patron il me traite comme rien de tout? Ça ne te fait rien que je ne trouve pas quelqu'un avec lequel je peux passer ma vie dans le mariage? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai prié, et rien! Qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est une bonne question. Et puis, Jésus, il pose une question, il se lève, il fait taire l'orage, comme ça, c'était... Wow, parce qu'ils avaient peur. Et moi, je comprends, parce que je crois que les bateaux, à leur époque, étaient comme les avions à notre époque. Et moi, je n'ai pas peur quand je suis dans les airs, normalement, mais une fois, quand nous étions au Luxembourg, j'étais retourné aux États-Unis pour la remise de diplôme de mon fils aîné qui terminait ses études universitaires. Là, c'était au Massachusetts et j'ai pris l'avion à Connecticut pour aller au Luxembourg. Mais il fallait d'abord passer par le Washington-Baltimore. Alors, quand nous étions sur le piste d'atterrissage, l'avion, ça restait, ça ne décollait pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, il faut vraiment que j'arrive à Washington à cette heure-là, parce que la distance, le temps entre les deux avions, c'était très serré. Et il faut que. Mais je voulais dire au pilote, mais vas-y. Il dit, ouais, il y a un orage entre ici et Washington, on attend un peu. Je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vas-y. Et puis, enfin, on a décollé et là, on était dans les airs à la moitié entre le Hartford dans le Connecticut et le Washington. Et tout d'un coup, je croyais que j'étais sur un cheval sauvage dans cet avion. J'avais dans mon cœur, j'avais un homme là à côté et je voulais lui partager l'évangile, mais j'osais pas. Et tout d'un coup, ça commençait à faire comme ça. Et tout d'un coup, je suis devenu très spirituel. Je commence à lui parler. Et lui aussi, il est devenu plus spirituel. Il a répondu bien. C'est pas. Mais à ce moment-là, j'avais peur. Et je me dis, oh là là, j'aurais souhaité qu'on ne décolle pas parce que c'est tellement difficile. Et là, je comprends les disciples. Et Jésus leur dit, mais pourquoi vous avez peur? Et je dis, Jésus, je sais pourquoi. Tu n'as pas vu tout ça? Et toi, tu dormais. Mais Jésus, il leur dit en effet, où est ta foi? Et c'est ça la question, le nom de ce message. Allez-vous me faire confiance ou non? Allez-vous me croire ou non? Parce que sans le vouloir ou non, chacun, chacune de nous, plus tôt ou plus tard, on va faire face à cette question. Allez-vous croire au Seigneur? Allez-vous croire sa parole? Allez-vous faire confiance au Seigneur ou non? Et j'avoue, il y avait des moments dans ma vie que je me suis cassé la figure. Je n'ai pas eu la foi qu'il fallait. J'ai abandonné, j'étais découragé. Mais mes amis, c'est clé, c'est tellement important dans ta vie spirituelle parce que quand tu dis oui, Seigneur, et tu restes dans le bateau, même si tu dois réveiller le Seigneur. Et moi je rigole parce qu'il y a une autre des évangiles. Il semble presque que le Seigneur, il est un peu agité, un peu frustré quand il le réveille. Et je me dis, le Seigneur, il ne pêche jamais, mais je crois qu'il est un peu fâché qu'il se réveille, un peu comme moi, on me réveille et je suis bien en train de dormir parce qu'il était fatigué. Et là, mais la question, et la troisième question, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors jusque-là, les disciples, ils avaient vu toutes sortes de miracles. Jésus a fait toutes sortes de choses. Et oui, 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 mais faire taire le vent et la mer, wow! Et ils avaient une vision de Jésus, une réalisation de qui il était comme jamais auparavant. Et souvent, le Seigneur nous permet de passer par ces orages pour voir un aspect de la gloire de Dieu que nous n'avions jamais vu auparavant. Nous voyons sa gloire d'une autre manière. Oui, Seigneur, je savais que tu pouvais multiplier le pain et les poissons. Oui, Seigneur, je savais que tu pouvais ouvrir les yeux d'un aveugle. Oui, Seigneur, je savais que tu prêchais avec puissance. Oui, Seigneur, je savais que tu pouvais faire ça. Mais, oh, même le vent, qui d'après moi n'a même pas de cerveau, même le vent s'arrête à ta parole. Et mes amis, ton épreuve aujourd'hui, parce que j'ai bien l'idée que si tu respires, tu as une épreuve quand même, d'un côté ou d'un autre. Sinon, bientôt, tu auras. Ce n'est pas un mauvais prophète, j'espère, mais quand même, ça fait partie d'être humain. On passe par des épreuves, n'est-ce pas? Et notre réponse aux épreuves, ou même aux choses que le Seigneur veut nous donner. Parce que, quelque part, on plusieurs dans moi, le premier, et c'est presque dans l'ADN qui croit, si je reçois quelque chose de Dieu, il faut que je le mérite. Il faut que je sois sage, il faut que je sois parfait. Si je fais pas tout parfaitement, ou si je dois avoir plus de foi, plus de foi, plus de foi. Si Dieu fait quelque chose pour moi, il faut que je le mérite. Alors je me souviens. Quand je vous ai dit peut-être la semaine passée ou la fois avant, mais comment je suis venu au Seigneur quand j'étais enfant. Et je crois que je suis vraiment venu au Seigneur. Mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. J'habitais un foyer où c'était difficile. Ma maman, elle avait de gros problèmes de nerfs et ça tombait sur nous, les enfants. Et des fois, c'était pas vraiment gai. C'était ma grand-mère qui m'a emmené au Seigneur et j'ai pris une décision pour le Seigneur. Mais là, avec maman, si tu faisais une erreur, c'était souvent pow, pow. Et tu avais toujours peur de bouger à droite et à gauche. Et j'étais en plus l'aîné des enfants, alors souvent l'aîné, il est plus sérieux. N'est-ce pas les aînés? On est très sérieux, nous, les aînés de la famille. Les autres, ils ne sont pas sérieux. Mais nous, les aînés, nous sommes très sérieux. Mais de toute façon, c'est là. Et un jour, je serai dans l'église. Et en plus, les pasteurs, dans le temps, si vous croyez que nous prêchons fort aujourd'hui, il fallait être là il y a 30 ou 40 ans de cela. Tout était péché. Mon pasteur, il prêchait tous les péchés de la Bible et je crois qu'il a même inventé quelques péchés pour que je me sente coupable. Et oh là là, comme ça, il aura une réponse quand il lance l'appel, je ne sais pas quoi. Mais j'avais le sentiment, je ne peux jamais arriver pour plaire à Dieu parce que si je ne fais pas ça, j'ai des mauvaises pensées ou quelque chose comme ça. Et je croyais aussi en plus, si vraiment vous êtes sauvés, vous aurez toujours ce sentiment. Alléluia, petite auréole autour de la tête, vous serez toujours joyeux dans le Seigneur avec un grand sourire. Et des fois, même aujourd'hui, des fois, je me réveille et avant la première tasse de café, je sais que je suis sauvé, mais mes sentiments ne le savent pas. Alors, avec quelques gouttes de café, ça va. Je crois qu'il y a quelque chose de très spirituel dans le café, n'est-ce pas, les amis? Je plaisante, ok. Mais je marchais par mes sentiments et je marchais par l'idée que je devais être 100% parfait. Et moi, je voulais et je veux être parfait devant le Seigneur. Mais on tombe tous des fois. Et j'étais en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et en plus, je voulais le baptême du Saint-Esprit parce que ma grand-mère disait qu'il fallait être baptisé du Saint-Esprit et mon pasteur disait qu'il fallait être baptisé du Saint-Esprit et tous les évangélistes de passage disaient que j'étais devais être baptisé du Saint-Esprit et je voulais être baptisé du Saint-Esprit pour qu'il me cesse de casser le pied et me laisse tranquille. Hein? Moi, je ne voyais pas le besoin, mais je commençais en écoutant la prédication de la parole, vouloir le baptême du Saint-Esprit. Mais je me dis, je ne suis pas assez bon. Parce que même en ce jour-là, on dit, « Oui, si vous arrêtez avec ce péché-là, Dieu vous baptisera du Saint-Esprit. » Si vous arrêtez, écoute mes amis, je ne condamne pas le péché. Le péché, c'est grave, c'est sérieux, il y a des répercussions et tout ça. Mais si moi j'attends jusqu'à ce que je sois parfait avant de recevoir quoi que ce soit du Seigneur, je fais confiance à moi et je ne fais pas confiance au Seigneur. C'est pour ça, pour le salut. Je mettais ma confiance en moi et moi je ne peux pas me sauver. La seule chose que David peut faire après cette vie, c'est aller en enfer. Parce que David n'était pas assez bon. Oui, j'avais fait des bonnes choses, mais j'ai aussi fait des mauvaises choses. Alors, sans l'aide du Seigneur, je ne peux pas aller au ciel. Sans l'aide du Seigneur, je ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Sans l'aide du Seigneur, je ne peux pas être guéri. Sans l'aide du Seigneur, je ne peux pas entrer dans toute la plénitude de Dieu. Sans l'aide du Seigneur, je ne peux jamais faire taire le rage qui souffle autour de moi. Vous comprenez? Et oui, on essaie de toutes nos forces, mais mes amis, ma confiance n'est pas en David. La question, ce n'est pas, David, est-ce que tu peux faire ça? Parce que j'ai tant de choses dans ma vie que je ne peux pas faire. Mais la question est que le Seigneur m'adresse, David, est-ce que tu vas me croire ou non? Est-ce que tu vas me faire confiance ou non? Et c'est la question que le Seigneur vous pose ce matin, est-ce que tu vas lui faire confiance ou non pour cette guérison, pour cette sanctification, pour le baptême du Saint-Esprit, pour que le caractère de Christ soit formé en toi? Est-ce que tu vas croire ou non? Et c'est bien facile de dire Amen pour moi et pour vous. Mais moi, je sais que quand on est là devant notre Goliath, on dit Oh, quand le soleil, excuse-moi, quand l'orage souffle, je suis là et Oh Seigneur, mes émotions crient. Et mon cerveau, mon logique dit, c'est pas possible. Et on dit, mais comment faire avec cela? Mais mes amis, je vous dis quelque chose. Au milieu de l'épreuve, okay, au début, vous tout petits chrétiens. Souvent, le Seigneur fait des choses pour les chrétiens qui commencent parce qu'ils ne savent pas comment faire. Mais nous qui avons marché dans le Seigneur un peu, il attend que notre réponse soit une réponse de foi et de courage et de confiance. Amen. Ou bien, on va faire en anglais aussi. Oh me, oh my, oh ya ya, oh la la. Seigneur, tu entends, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive et tu dors, etc., etc. Alors, si vous êtes dans l'orage ce matin, que faut-il faire? Alors, d'abord, je dirais, louez le Seigneur! J'ai réveillé quelques personnes qui dormaient. C'était bien, c'était amusant en plus. Louez le Seigneur! Louez-le parce qu'il est digne de louange et d'adoration. Vous savez quoi? Si je suis malade et le Seigneur me guérit, le Seigneur ne me guérit pas, il est digne d'adoration parce qu'un jour je serai guéri éternellement. Amen? Mais ça se peut bien qu'il me guérisse, même maintenant. Et dans ma situation, est-ce que le Dieu, il veut, qu'est-ce que je vais faire? Oh, bon, il y avait trois armées qui sont venues contre Israël. Et le roi de moi, si j'avais été le roi, j'aurais appelé l'armée pour m'aider et j'aurais peut-être demandé des avions de chasse. Ils n'avaient pas des avions de chasse dans la Bible, mais ce qu'ils avaient, moi j'aurais demandé tous mes armements vraiment pour venir contre cet ennemi qui était plus grand que moi. Mais vous savez ce que le roi Josaphat a fait? Il a fait venir les gens pour une réunion de jeûne et prière. Il était dingue. Qu'est-ce que c'est, Josaphat? Oui, oui, on prie, mais regarde ce qui vient. Tous ces gars qui sont méchants, ils vont nous détruire, notre pays, etc., etc. Et il priait, il priait, il priait. Et tout d'un coup, le Seigneur le donne une parole prophétique. Vous n'aurez même pas à combattre parce que c'est moi qui vais combattre pour vous. Et le jour suivant, j'ai eu une bonne nouvelle pour l'équipe de louange. C'était l'équipe de louange qui était devant l'armée. Oh là là, moi j'aurais très vite démissionné de l'équipe de louange et vous aussi. On ne veut pas être les premiers. On veut louer le Seigneur du milieu. Mais eux, c'était les gens qui louaient le Seigneur, qui dirigeaient la louange devant l'armée de Dieu. Et la Bible dit quand ils ont commencé de chanter et louer le Seigneur, c'est le Seigneur qui commençait d'agir. Il a fait en sorte que ces trois armées méchantes qui viennent, ils se combattent entre eux, ils se tuent entre eux. Et quand le peuple de Dieu est venu, il fallait seulement ramasser des biens qu'ils avaient emmenés avec eux, parce que Dieu avait déjà gagné le combat. Et mes amis, aujourd'hui, souvent, l'ennemi, quand nous avons un orage dans notre vie, et ça souffle, et on a mal, on va se plaindre, on va bouder. Comme j'ai dit l'autre jour, on est des bons bouddhistes, nous boudons toujours. On dit, mais Seigneur, je croyais que ta parole disait, et tu as fait ça pour celui-là, mais pas moi, etc. Non, au lieu de faire ça, quand on commence de louer le Seigneur, c'est le Seigneur qui passe à l'acte pour nous. La puissance est là. Combien de fois nous avons vu? Et mais j'ai dit honnêtement, moi je ne loue pas le Seigneur seulement pour qu'il fasse ce que je veux. Parce que si tu veux, c'est un peu la manipulation, n'est-ce pas? Seigneur, je te loue. Et quelqu'un a donné un témoignage ce matin, il a dit, il a loué le Seigneur et le Seigneur a répondu à toutes ses prières. Alors, Seigneur, je te loue. Ça, c'est la manipulation. La louange, ça monte du cœur. La louange, ça monte de qui nous sommes. Seigneur, je ne comprends pas, je ne vois pas, je suis incapable, je suis faible devant cet ennemi-là. Mais je te loue parce que tu es toujours Dieu et tu es toujours fort et tu es toujours capable de faire taire ce vent et tu es toujours capable, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance et parce que tu es digne et tu es capable de faire cela pour moi. Et je crois que tu vas le faire pour moi. Alors, tu dis, David, ça c'est bien beau. Mais je connais des personnes qui ont cru et qui croyaient vraiment que le Seigneur allait répondre à leur prière. Et ça ne s'est pas bien passé comme il voulait. La personne est morte. Ou la situation est tombée en faillite. Ou ceci ou cela. J'ai entendu un témoignage dernièrement qui m'a beaucoup touché. C'était un pasteur. Et dans son église, il y avait beaucoup, et il y a toujours beaucoup de miracles, beaucoup de gens guéris, beaucoup de gens touchés par le Seigneur, mais surtout des guérisons fortes et vraiment. Oui. Et sa femme est tombée malade d'un cancer, mais un cancer très fort. Et ils ont fait le combat, bien sûr, ils sont allés au médecin comme il faut, mais ils ont fait le combat spirituel. Et ils ont prié, ils ont fait l'onction de l'huile, les gens ont prié, il y avait toutes sortes de paroles, il y a toutes sortes de combats. Ils ont fait le combat, je crois, pour quelques années. Et le jour vient où elle était là dans son lit, son mari, quelques membres de la famille, des gens qui leur étaient très chers, étaient à son lit. Et la sœur, elle est morte, là, devant eux. Et le pasteur dit, tu sais ce qu'on a fait quand elle est morte? On commence de louer le Seigneur. On a adoré le Seigneur. On a glorifié le Seigneur. Il a dit, tu sais pourquoi? Il a dit, parce que à ce moment-là et en ce moment, nous pouvons louer le Seigneur d'une manière que nous ne pouvons jamais louer le Seigneur quand nous serons au ciel. Parce qu'au ciel, on va le voir. Au ciel, il n'y aura pas de maladie. Au ciel, il n'y aura pas d'épreuve. Au ciel, on sera là éternellement en train de louer le Seigneur. Mais ici, des fois, il nous arrive des choses que nous ne comprenons pas. Et nous pouvons quand même lever les mains et louer le Seigneur là devant une douleur terrible, là dans un moment terrible. Nous pouvons dire merci Seigneur car tu es toujours Dieu. Ça ne change rien de ta nature, ça ne change rien de qui tu es. Il a dit maintenant dans ces moments-là, c'est précieux parce que nous pouvons louer le Seigneur d'une manière que nous ne pouvons pas louer le Seigneur quand nous serons au ciel même. Parce que quand nous louons le Seigneur dans la douleur, c'est déjà beau. Mais attention, attention, nous les chrétiens, des fois, je crois qu'on raconte des histoires quand ça ne marchait pas parce que c'est difficile de comprendre, honnêtement. Mais il ne faut pas oublier que Dieu, il agit. Tant de fois, Paul et son groupe-là, il y avait 276 personnes, je crois, dans un bateau qui a été pris dans un orage terrible, qui soufflait pendant 2 semaines. De chez nous, on n'a pas beaucoup de neige, mais ce qu'on a, nous, ce sont des tornades. Et des fois, ils viennent à une ville pas loin de nous, à peu près 100 km de nous. Et il y a quelques années de cela, il y avait une tornade qui a touché cette ville. Il y avait 160 morts à peu près. Alors, c'est pas que on n'est pas trop gâté par le temps non plus, hein, alors de ce côté-là. Mais disons, Paul, il était dans ce bateau et c'était difficile et l'orage soufflait et ces orages, comme l'orage qui touchait nous, ça touchait chez eux. Je peux supporter une orage pour 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. J'ai peur. Et chez nous, quand il y a des tornades qui sont vues dans la région, la télévision, tout de suite, ça vient avec le météo. On dit, écoute, on a vu ça dans cette région, on a vu ça dans cette ville et comme ça pour avertir tout le monde. Et des fois, il dit, il faut aller se cacher maintenant. Mais Paul et les autres sur le bateau, ils ne pouvaient pas se cacher. Ils étaient pris dans cet orage. Pas pour 10 minutes, pas pour 1 heure, pas pour 1 jour, mais pour 2 semaines. Et la Bible dit qu'ils avaient tous abandonné l'espoir d'être sauvés. Paul, Il faisait quelque chose que la plupart des autres ne faisaient pas. Il était là devant le Seigneur. Il priait, il cherchait la face du Seigneur. Il ne voyait rien comme tous les autres. Il voyait l'orage, il était là. Mais tout d'un coup, il y avait un ange. Il a dit, « Paul, il va falloir que tu peux rendre témoignage devant César aussi. Et là, je te donne ta vie et la vie de tous les autres qui sont dans le bateau avec toi. Le bateau sera perdu, mais tout le monde sera sauvé. » Et c'est ça qui est arrivé. Paul a dit, moi, je crois ce qui m'a été dit. Et souvent, ce n'est pas une question que Dieu il ne répond pas à nos prières. Mais mes amis, je crois que la foi est têtue comme une mule. Hein? Amen! La foi dit, Dieu, tu l'as dit. Voilà ta parole, Seigneur. Et c'est pas, ça ne manque pas de respect de dire au Seigneur, voilà ta parole. Seigneur, tu as dit que même en Romains 8 et 28, tu fais en sorte même que les choses, que tout concourt à notre bien pour ceux qui t'aiment, qui sont appelés selon ton dessein. Moi, je suis appelé à Jésus pour le salut, et toi aussi. Et maintenant, tu peux même attendre que même le mal tourne en bien à cause de la parole de Dieu, à cause de la promesse de Dieu. Voilà ce que tu as dit, Seigneur. Voilà ta parole. Je crois que Dieu, il est content quand nous lui rappelons sa parole. Tu as dit cela, Seigneur. Voilà ce que tu as dit. Et vous savez quoi? Le Seigneur, il va te donner un miracle ou il va te donner la force de traverser le miracle. Mais Jésus a dit à certains, il a dit, si vous avez la foi d'un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer et ça sera fait. Hein? C'est bien. Mais Paul a dit, moi j'ai prié 3 fois sur quelque chose. Et chaque fois que j'ai demandé, c'était une chose qui lui faisait beaucoup de mal. Et chaque fois qu'il priait, le Seigneur dit, non. Ma grâce te suffit. Et il a dit, quand j'ai la grâce de Dieu sur moi, j'ai la grâce et la gloire. Et pour lui, la grâce et la gloire que Dieu donnait dans cette situation étaient encore meilleures que même un exaucement de sa prière, comme il voulait. Alors, si vous êtes là, et vous êtes dans le besoin, vous êtes dans l'orage, et vous criez vers Dieu, et vous touchez Dieu par la foi, et vous louez le Seigneur. Soit vous allez avoir une montagne qui se déplace pour se jeter dans la mer, ou bien vous allez avoir la grâce et la gloire du Seigneur pour aller jusqu'au bout. Des fois, il faut chasser cette montagne, et des fois, il faut monter cette montagne. Et Dieu vous donnera la force de faire l'un ou l'autre. Amen. Si je prenais le temps, et je sais que il est difficile des fois quand on écoute trop longtemps, alors je vais arrêter dans juste un moment. Mais je dis à quelqu'un ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais quand moi je prêche, 1 heure me semble comme 10 minutes. Et quand les autres prêchent, 1 heure, c'est 10 minutes, c'est comme 1 heure. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je sais que ce n'est pas toujours facile d'être... Oui, pour ne pas bouger pendant un certain temps. Je crois que le Seigneur veut montrer sa gloire pour plusieurs personnes ce matin. Vous êtes là, et dans votre bateau, il y a vraiment un orage. Peut-être qu'il y a quelque chose de spirituel, une assurance de ton salut, le baptême du Saint-Esprit, la sanctification dans un certain domaine de ta vie. Et tu dis, Seigneur, je crie, je prie, ça ne marche pas. Et le Seigneur est là, je crois, pour exaucer votre prière ce matin. D'autres sont là, vous êtes malade physiquement. Ou bien à l'intérieur, vous êtes déprimé, découragé. Ou d'autres, vous avez des épreuves vraiment, vraiment fortes. Et vous voulez que le Seigneur vous aide. Vous voulez que dans votre situation, que le Seigneur dit paix. Tais-toi au vent qui vient contre toi, aux vagues qui veulent vous noyer. Il est là ce matin pour vous, mes amis. Lève-nous là à notre place. Seigneur Jésus, merci pour ton peuple. Je prie pour cette église d'Edmundston. Je vois tant de bonnes choses ici. Je vois des gens qui t'aiment. Je vois des gens qui s'aiment. Et en même temps, Seigneur, je vois toute une région qui a besoin de la parole de Dieu, du salut de Jésus. Et pour la plupart, ils ne savent même pas. Oh Seigneur, je prie d'abord, avant de prier pour les individus, je prie d'abord pour cette église. Seigneur, vraiment que tu leur donnes une onction nouvelle. Seigneur, que tu leur donnes une capacité, que ces chrétiens qui t'aiment tout d'un coup, ils commencent d'être des occasions à droite et à gauche comme jamais auparavant de témoigner pour toi, Seigneur, de dire que Jésus t'aime et peut te sauver, te pardonner, changer ta vie. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que cette église ait un impact, grand impact dans toute cette région, dans le nom et pour le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as mis cette église ici exprès. Tu as mis ces chrétiens qui t'aiment beaucoup ici exprès. Je prie pour cette église dans le nom de Jésus. Seigneur, pour une onction, pour un nouveau baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Nouveau onction de l'Esprit. Seigneur, que ça coule, que les dons de l'Esprit commencent vraiment d'apparaître, pas pour glorifier des personnes, mais pour que les gens soient sauvés et pour que Jésus soit glorifié. Jésus, agit dans l'Église, agit dans ton peuple. Cet esprit d'unité qui est là, Seigneur, approfondis-la, Seigneur, pour que nous nous aimons dans les moments difficiles. Seigneur, aide-nous, aide cette Église. Bénis cette Église. Bénis, Seigneur, comme tu l'as déjà fait.